Et bonjour tout le monde. On est lundi et ça fait un moment qu'on ne s'est pas parlé, n'est-ce pas? Entre temps, j'ai fait 2000 km en bagnole. J'ai passé une semaine en bord de mer. Je suis revenu. Voilà, ça ressemble à peu près à ça. Ça fait du bien les coupures. Ça fait du bien, ça permet de prendre un peu le recul. Pendant quelques jours, j'avoue, j'étais dans un endroit où on nous avait promis une connexion Wi-Fi, donc j'avais mon assistante Fleur qui s'occupe de toute la partie communication, mais aussi qui est administratrice du réseau du Cercle des Rédacteurs. Je lui avais dit, je vais essayer d'être là, t'inquiète pas, je vais faire des réunions, tout va bien, je vais pouvoir continuer à assurer mes cours. Je suis arrivé sur place, la propriétaire du gîte où on était, magnifique gîte, vraiment chouette, pas cher du tout, dans une ferme. En fait, c'est des gens qui ont rentabilisé leur ferme. Ils ont installé à peu près 50 places, plus un camping. Ils ont mis une énorme piscine au centre. Ça fait 30 ans, 20 ans qu'ils font ça. Des potagers, des trucs, etc. Et on est à 5 km des plages, paumés en campagne. Mais c'est génial. Enfin, je veux dire, si vous avez rêvé de prendre votre petit déjeuner sur une énorme pelouse à côté d'une piscine avec des bungalows tout autour, tout en étant dans une ferme, voilà, je vous dis le truc. Ça vaut le coup, c'est vraiment chouette. Fin de la parenthèse. Bon, mais en tout cas, je suis arrivé sur place, elle a dit « Ah, vous savez, on est à la campagne, le Wi-Fi, ça marche, mais pas très très fort. » J'ai fait un test de vitesse, on est arrivé à 0,5 mégaoctets en download et 0,1 en upload. Ça s'appelle la 2G. La 2G. Voilà, du 512K. C'est ça ce que Orange a refilé à ce lieu de vacances pour tous les vacanciers, du 512K. Donc bon, éventuellement, j'avais mon forfait téléphonique, mais c'était risqué, ça fonctionnait pas bien. Bon, quelque part, je me suis dit, est-ce que c'est pas l'occasion finalement d'essayer de décrocher un peu? Donc j'ai prévenu Fleur, prendre le relais. Elle a pris le relais très bien. Il y a aussi des membres du cercle qui avaient prévu des événements. Un événement SEO, notamment sur l'historique de tous les algorithmes de Google. J'ai pas eu l'occasion de regarder, mais je pense que c'est depuis le début. C'est un travail de François Bindel qui a beaucoup plu. Et puis, on a eu aussi un événement dans notre groupe spécial de Madagascar. C'est un des clubs fermés qui accueille sur invitation, en quelque sorte, ou qui est réservé en tout cas aux élèves de MADA, et qui est dirigé par les élèves de MADA, où ils ont fait un événement autour de la fête d'indépendance de l'île et tout un débat, réflexion, tout ça autour de ça. Et je crois qu'il y a eu aussi un afterwork pendant cette semaine, donc ça va, j'ai pas trop manqué. Mais voilà, donc pour le coup, j'ai fait une grosse coupure. Plus ou moins, et puis il faut dire que j'étais en voyage avec ma mère. Ma mère m'avait offert comme cadeau de Noël une semaine avec elle, et vous savez que plus le temps passe dans la vie, et moins on passe de temps avec nos parents, et donc c'était une super occasion de la retrouver aussi, et de passer une semaine avec aussi Oli, le chien, et on est allé spécialement dans ce coin-là de la France, dans les Sables d'Olonne, parce qu'il y avait plusieurs plages qui étaient autorisées aux chiens. Et donc, voilà, Oli a pu profiter de la mer aussi. Voilà, donc comme ça, vous savez tout. Et pour le coup, c'est vrai que ça fait du bien, même s'il m'a fallu quand même quelques jours pour renoncer, parce que j'étais en plein travail de rédaction, de création des trois parcours de formation qui composent la nouvelle formation. C'est quelque chose d'un peu exceptionnel que je suis en train de faire, exceptionnel dans le sens où vraiment ça fait exception avec ce qu'on connaît. Je dis pas que c'est le meilleur truc du monde, j'espère de tout cœur que cette formation est unique en son genre, ça c'est sûr, mais par contre, est-ce qu'elle est à la hauteur? C'est là tout l'enjeu, et c'est pour ça que ça a besoin de maturer, de travailler. J'en suis à la 5e version, 5e réécriture. Voilà, parce que en fait, je suis en train de tenter une nouvelle forme de narration qui s'appelle de formation qui s'appelle justement la formation, que j'appelle comme ça parce que je n'en connais pas d'autre, la formation narrative. J'essaye de mélanger deux univers qui sont la formation, la vraie formation, et le jeu de rôle. Mais pas dans le sens où je demande forcément aux élèves d'incarner des personnages. Enfin, si, ils peuvent le faire, mais on ne va pas les solliciter sur ce plan-là. L'objectif de ce récit, de ces trois récits, parce que les élèves sont divisés en trois groupes, et chaque groupe vit sa propre aventure, qui se croise avec les autres, dans l'univers de la piraterie, vous vous en doutez bien, on n'arrête pas de parler des capitaines, donc forcément, il fallait travailler sur cette métaphore. Mais les enjeux de ce travail-là sont très nombreux. Il faut réussir. Mon premier objectif, je vais le poser comme ça, mon premier objectif, numéro un, c'est de faire que les élèves restent jusqu'au bout. Vous pourriez me dire, oui, bah ça veut dire juste qu'il faut que ta formation soit bonne. Pas du tout. Pas du tout. Il y a entre 30 et 60% d'abandon systématique de ces formations. Il y a, un peu comme pour les salles de sport, des formations qui reposent sur le fait qu'elles savent qu'une partie des gens qui vont acheter la formation vont l'abandonner. Moi, j'ai vraiment envie de dire que c'est un contrat entre l'élève et nous et qu'il faut que je mette tout ce qui est possible en œuvre pour le garder motivé, connecté à ses objectifs, curieux, volontaire et en fraternité avec nous dans le temps de la formation qu'on a raccourci à 6 mois pour essayer vraiment d'être le plus optimal possible, sachant que ça va être 6 mois un peu costaud parce que, enfin, je reviendrai là-dessus plus tard, mais bon, d'abord le premier objectif que j'ai, le number one, c'est ça: trouver le moyen que les gens restent le plus longtemps possible et jusqu'au bout de la formation, qu'ils n'abandonnent pas. Ça n'a rien à voir avec la qualité de la formation. C'est d'autres leviers qui doivent être activés. Donc, le fait de les faire rentrer dans un narratif qui les concerne, qui les touche, qui les anime, dans lesquels ils ont du pouvoir, en groupe et individuellement, c'est un bon levier pour ça. La deuxième chose que je veux, c'est quitter un peu le côté scolaire. Je déteste le côté scolaire des formations. Je déteste ça. D'abord parce que je crois profondément en l'andragogie, le fait que les élèves sont des adultes qui ont des projets de carrière, des projets de vie, et que c'est pas le moment de venir leur dire « alors voilà, ceci marche comme cela, il faut que tu fasses ceci, il faut que tu fasses cela ». Non, il faut que ça corresponde à des objectifs. C'est très important que il y ait des raisons de chacun des apprentissages. Et aussi qu'il y ait de l'expérience. Il faut que les deux se cumulent, de manière à ce que ça fasse un ancrage, une empreinte dans la psyché des savoir-faire, en quelque sorte. Il faut que la personne ait expérimenté la chose pour pouvoir en parler et qu'elle ait en même temps eu la curiosité de théoriser autour de cette chose pour pouvoir étendre sa culture autour. C'est tout ça qu'on essaye d'atteindre. Donc, on a cette formation qui essaye d'amener quelque chose là où on ne peut pas créer du désir de savoir sur des choses que les élèves ne vont pas être confrontés à faire. Ou c'est mal dit. Les élèves ne seront pas confrontés à ces tâches-là avant un certain temps, mais pourtant elles sont fondatrices de la compréhension générale. Alors, dans mon narratif, dans mon récit, il y a des instants où ces questions-là se posent très concrètement dans le récit. Donc, pour faire avancer le récit, il faut résoudre cette question-là. Question qui, normalement, sur le parcours d'un rédacteur web classique, ne se rencontrerait pas avant plusieurs années, peut-être. Donc, pour construire solide, il faut quelque part créer des problèmes à résoudre. Donc, le narratif est fantastique pour ça. On a la possibilité de faire apparaître des événements qui les confrontent à des problèmes nouveaux qu'ils vont pouvoir résoudre. La question, je ne sais pas, hein, je vous donne un exemple, elle n'est pas fondamentale, mais elle fait partie des éléments qui ont été rajoutés dernièrement. La question de l'IA, l'intelligence artificielle, qu'est-ce qu'on en fait de ce GPT-3 et des autres qui tentent de faire des logiciels qui écrivent à notre place? Qu'est-ce qu'on en sait? Qu'est-ce qu'on en comprend? C'est ce défi-là aussi qu'il faut réussir à questionner. Alors qu'un rédacteur, avant qu'il se pose la question de son avenir, il faut d'abord qu'il résolve toutes les questions de son présent. Mais là, nous, on a la possibilité de voir plus loin. À un moment donné, quelqu'un peut poser cette question-là dans le récit et imposer aux autres le fait d'y répondre. De faire un état des lieux, d'établir une compréhension des objectifs. Parce que l'IA, ça concerne tout le monde. On pourrait croire que ça concerne avant tout les rédacteurs web, mais en fait, ça concerne vraiment tout le monde. Moi, j'adore quand il y a des SEO qui viennent dire, là, j'ai vu SEO Camp et les lives qui sont disponibles sur YouTube. Allez voir le compte SEO Camp sur YouTube, vous allez tomber sur des conférences, beaucoup de conférences, toutes les conférences, je crois d'ailleurs, de SEO Camp, qui sont disponibles en replay. Donc, voilà, un petit peu de popcorn, une soirée, et puis vous vous retapez toutes les conférences qui ont lieu dans un des plus grands événements SEO de France. Ça vaut le coup. Mais voilà, qu'est-ce qu'on lit ? Bah, y a au moins deux ou trois conférences qui concernent l'intelligence artificielle. Comment est-ce qu'on va l'utiliser dans la création de contenu ? Qu'est-ce qu'on peut faire, pas faire ? Comment Google l'apprend ? Ouais, mais pendant ce temps-là, il y a des gens qui sont en train de créer des outils avec de l'intelligence artificielle, toujours, avec notamment GPT-3, qui ont pour but de remplacer les SEO. Voilà, c'est-à-dire à un moment donné, vous rentrerez l'adresse de votre site et vous recevrez un guide de tout ce qu'il faut modifier sur le site facilement et qui fera le travail du SEO parce que toutes les tâches que le SEO fait peuvent être automatisées, à l'exception d'une seule qui est le choix de la stratégie. Donc, ça concerne tout le monde. Mais voilà, donc, c'est un peu ça ce que je veux dire dans mon format narratif. Qui est très étonnant, vraiment. Je comprends que des gens... j'ai peur que les élèves qui sont rentrés dans cette nouvelle formation, quand je leur ai dit « on va faire quelque chose ensemble, quelque chose de nouveau », au moment où je l'ai dit et au moment où ils sont rentrés, j'avais aucune idée du narratif. Je ne pensais pas du tout que j'allais partir sur un axe narratif. Pas du tout. Mais il y avait quelque chose qui me frustrait dans le fait de composer des groupes et de devoir faire des exercices pour groupe et pour individuel et que ça soit pas chiant. Moi, je sentais que ça serait chiant. Donc, à un moment donné, je me suis dit, mais en fait, c'est une aventure. On part sur une aventure, on part sur un récit, on part sur un grand film de 6 mois avec des péripéties et des événements auxquels il faut répondre, avec des exercices à résoudre, avec des enquêtes à faire, avec plus de compréhension et plus de enfin, tous les leviers dont j'ai besoin pour enseigner à quelqu'un le fait d'être un entrepreneur professionnel de la rédaction web, toutes ces choses-là peuvent être sollicitées par le récit. Vraiment, le fait d'aller au contact avec des gens à l'extérieur, le fait d'analyser des marques ou des sites, le fait de regarder des formations tierces et des trucs comme ça, se composer des corpus de savoir pour savoir répondre à des questions, tout est là. C'est fabuleux. Alors ma grande angoisse, c'est que tout ça ne plaise vraiment pas à l'État qui refusera notre homologation, parce qu'on travaille là-dessus, et on travaille aussi sur le CPF, mais là... Là, le CPF, je sais même pas comment on va faire. Je pense qu'on va devoir se créer notre propre certificat à ce rythme-là. Mais pourquoi pas ? Pourquoi pas ? C'est quand on aura bien consolidé tout ça, on va peut-être pouvoir créer un vrai certificat de rédacteur web communicant. Parce que c'est tout notre objectif, faire des rédacteurs web d'aujourd'hui des gens qui sont à 200% ce qu'ils étaient hier. C'est-à-dire... là où j'ai encore vu un article à propos de comment trouver des clients, je crois que c'est Sifoun Bey qui l'a publié sur Abondance, il me semble. Là où j'ai encore vu un article qui considère vraiment le rédacteur web comme quelqu'un qui cherche des petits contrats à écrire et rien de plus que ça, moi je milite pour le fait que les rédacteurs web sont les seuls placés, pas les mieux placés, les seuls placés pour créer de l'identité, de la force, du branding sur l'ensemble d'un site. Ne demandez pas à votre concepteur rédacteur préféré d'écrire les fiches produits. Il le fera pas. Je vous le dis tout de suite. Hein. Il a la grosse flemme. Mais au-delà de ça, je veux dire, il s'est spécialisé dans les pages de vente. C'est tout ce qui l'intéresse. Et voilà, donc les meilleurs rédacteurs aujourd'hui, ceux que les clients indiquent comme étant les meilleurs des meilleurs et vraiment ceux qui donnent le plus de satisfaction, faites la vérification, ils ont des formations de marketing derrière. C'est comme ça, ils ont fait un parcours marketing, ils ont travaillé dans une agence, ils ont été formés à l'école, ils ont fait des écoles dans le domaine, ils ont fait des formations. Bref, ils sont formés au marketing et à la communication. C'est eux les meilleurs, pour tout le monde. Pourquoi ? Ah, ils écrivent vraiment bien, ça, ils comprennent tout de suite la marque. Ben, faisons ça. Comprenons la marque, exprimons-nous très bien, faisons des sites internet qui ont une vraie identité, une vraie force. Donnons de la valeur à notre contenu. C'est ça le changement de paradigme du rédacteur web. C'est le fait qu'il comprenne que les textes qu'il écrit, les textes qu'ils écrivent, ils sont les seuls à non seulement les écrire, mais en plus à pouvoir avoir la compétence de les juger. Ils sont les seuls. Donc voilà, moi ça m'interpelle. Je trouve ça intéressant de dire, ok, maintenant, on va prendre ce rôle-là. Et on n'est encore tellement pas pris au sérieux, quoi. Je veux dire, si vous êtes rédacteur web et que vous avez déjà fait l'expérience de parler à un référenceur, le tiers-monde, ça existe encore dans sa tête, hein. Donc, on est là aussi pour reprendre notre place d'humain dans une société humaine. Il y a un moment où il faut arrêter de porter ces étiquettes et de les recevoir, surtout ces étiquettes disant que ce qu'on fait est sans importance. Ce qu'on fait est majeur. On concrétise la stratégie du monsieur. Alors moi, je veux bien que l'architecte insulte les ouvriers, mais en même temps, l'architecte, dans son carnet d'adresse, il a des bons ouvriers qu'il a bien notés, qui savent très bien faire son travail, avec qui il peut travailler en duo. Quand un référenceur vient et vous dit « Ouais, il faut que tu fasses des articles sur besoin, bien-être, détente, il faut que tu cartonnes là-dessus », il vous demande quand même de produire des contenus là-dessus. Le mauvais rédacteur web va dire « Ok, on va essayer de composer des titres à partir de besoin, bien-être et détente. » Ok, merci. Des textes qui n'auront aucun sens ni aucun intérêt pour le lecteur, mais qui satisferont le référenceur qui n'y connaît rien non plus en rédaction web. Et en communication. Donc, il n'y a personne aux commandes là. Hein. Donc, voilà, il va faire ses contenus. Maintenant, si on a un bon rédacteur web, il va dire très bien, il faut que tu me donnes aussi la cible et les valeurs de la marque. Parce qu'à partir de là, je vais te faire les contenus qui vont bien et je vais te placer tes mots-clés là-dedans. Parce que besoin, bien-être, détente, ok, c'est une entreprise qui fait de la sécurité, qui pose des alarmes. Ah, besoin, bien-être, détente. Ok, ok, oh oui, d'accord, ok, ok, d'accord. Bon, alors là, pour le coup, c'est plus du tout les mêmes propos. Et puis, il faut creuser la marque, il faut identifier la marque, il faut comprendre ce qu'elle, elle propose de nouveau par rapport aux autres. Pourquoi elle, elle est importante par rapport aux autres. C'est-à-dire en quoi elle est unique. Parce que toutes les marques sont uniques. Parce que vous aussi, vous êtes unique. Tout le monde est unique. C'est ce qui est commun. Bref. Donc, c'est cette phrase que j'aime bien, tu es unique comme tout le monde. J'adore cette phrase. Mais voilà, donc, on a quelque chose là-dessus à amener au référenceur. Je veux dire, le jour où on voit le référenceur et qu'on dit, excuse-moi, je voulais juste te dire, tu livres un travail de merde. Voilà, je voulais juste te prévenir parce que c'est chiant. Tu écris des trucs, alors ouais, ok, Google il aime bien, ok, Google il positionne, mais le taux de gens qui se fracassent sur tes textes de merde écrits par des gens qui ne sont pas compétents et que tu as sous-payé et qui sont mal écrits, sans intérêt, sans efficacité du tout, et ben toutes les personnes qui viennent avec ton taux de rebond qui explose littéralement, ben ton client, il est peut-être content de voir que ton contrat est rempli et que tu as rempli, que tu as monté les chiffres, mais c'est pas loin de... Comment dire, j'ai une image en tête. C'est pas loin des... Ouais, je vais laisser tomber. Laisser tomber ce truc-là. Mais en gros, tu gonfles artificiellement les chiffres, là, quelque part. Là, tu es en train de faire croire que le site a du succès. Or, il n'en a pas. Tu as saboté le travail du client. Le client ne voit pas son chiffre d'affaires augmenter. C'est pas normal. Donc, au lieu de considérer que t'es le pape parce que t'arrives à déplacer les foules, est-ce que tu veux pas faire un travail en binôme, interne et externe ? Tu t'occupes de l'externe, on s'occupe de l'interne. Et on fait du SEO au petit oignon. Toi et moi. Et on parle. Et on se met d'accord. Et on travaille ensemble. Et on livre des textes qui sont super bons et qui cartonnent vraiment bien et qui ne déçoivent pas et qui ont des call to action et qui font que le taux de rebond tombe, ce qui est un bon signe. Et que finalement, en fait, le site internet va très bien, la marque est cohérente, les gens le recommandent, en parlent et achètent dessus. Est-ce que vraiment c'est déconnant ? Moi, ça m'intéresse beaucoup d'avoir des élèves dans ma formation qui acquièrent cette certitude-là, de cette place-là. Il ne s'agit pas seulement que je leur dise, ça ne suffit pas. Il ne faut pas qu'ils viennent dire « oui, la communication, c'est quand même bien à insérer dans le contenu des articles, on doit penser... » Non, je veux dire, il faut qu'ils goûtent avant. C'est pas terrible. Après, délicieux. C'est ça ce que je veux. C'est-à-dire qu'ils se disent, ben moi, si je veux être quelqu'un dans la rédaction web, c'est celui d'après. Je veux être celui qui va parler de communication. Je veux celui qui va être celui qui va convaincre le client de prendre le temps de se poser. Les clients, là j'en ai encore un qui a voulu passer commande à l'agence école, parce que l'agence école est toujours en recherche de contrat pour ses élèves, et c'est eux qui font la recherche de contrat. Et si vous vous demandez, oui, ceux qui font le parcours narratif sont aussi dans l'agence école automatiquement, donc ils font les deux. Et ben, il y a quelqu'un qui m'a contacté, qui m'a dit, ok, c'est quoi vos prix pour un article de blog et pour une page? Alors je lui ai dit, ben, quel article de blog? C'est quoi le site internet sur lequel on doit publier? Il faut d'abord qu'on voit le positionnement, c'est-à-dire est-ce qu'on s'adresse à des professionnels? Est-ce qu'on s'adresse à des amateurs? Est-ce qu'on s'adresse à du tout venant? Est-ce que c'est de B2B? Est-ce que c'est de l'expert? Est-ce que le sujet est technique? Pas technique? Est-ce qu'il nécessite des recherches? Pas de recherches? Ben, ça participe quand même à évaluer le chiffre. Même si actuellement on a une offre à 40 euros pour les articles de blog, offre temporaire, il n'empêche qu'il faut quand même s'assurer que ça corresponde, c'est-à-dire ni B2B ni expert, pour qu'on puisse prendre. Bon, et puis après, pour les pages, je lui ai dit, bah, les pages, ça dépend de quelle page. C'est quoi les pages? C'est page fiche produit, fiche catégorie, home page, home page, ou page à propos, page de guide, page de service, page maquettée. Je veux dire, c'est quoi les pages? C'est quoi leur fonction? Parce que le tarif varie en fonction de la fonction. Ben oui, je veux dire, vous êtes en train de prendre la responsabilité de faire la homepage d'un site. Vous vendez ça vraiment au même prix que la fiche produit? C'est... Voilà, je sais pas, vous êtes maçon, une brique est une brique, même si vous êtes en train de construire Versailles. Donc, non, ça nécessite des nouvelles compétences. Ça nécessite des savoir-faire, ça nécessite des travaux préparatoires. Par exemple, si on fait une homepage, on doit passer par une fiche éditoriale. C'est nécessaire de connaître le positionnement de communication de la marque, à qui elle s'adresse, pourquoi, etc. C'est nécessaire. Donc, bien sûr que le prix varie. C'est pas comme faire une fiche produit qui a trois critères. Là, c'est la homepage. Et en plus, ça se travaille en binôme avec un designer. On l'a vu, hein, on a travaillé avec une grande marque récemment. La personne nous a demandé de faire les contenus. On lui a demandé de faire d'abord la maquette. Elle a dit non, faites d'abord les contenus. Son site, elle l'a maquetté comme elle a pu à partir de nos contenus. Le mec s'est fait striker par sa direction parce que le site n'était pas assez beau. On doit commencer par la maquette. C'est un travail, je dirais, presque en synchronie. Presque. Mais légèrement désynchronisé. C'est-à-dire, le gars, il doit commencer par choisir le design, la charte graphique et la maquette. Et après, on doit faire une discussion où on échange sur la manière de positionner les éléments, les tailles de contenu qui nous sont allouées, et ce qu'on doit en raconter. Et là, on a quelque chose d'efficace. En gros, on doit être cerveau droit, cerveau gauche en même temps. On doit fonctionner chacun de notre côté comme ça. Ouh là là, j'espère que je ne vais pas me casser la gueule, là. Je passe dans la boue parce qu'il a flotté très très fort ce matin. Et maintenant, il fait de nouveau beau. Espérons que la canicule soit derrière nous. Mais bon. Donc oui, quand on travaille en asynchronie légère, comme ça, ça nous permet de faire des très très bons contenus parce qu'on se connecte en fait à la vision de quelqu'un. On commence à la mettre en mots, à la mettre en forme, à en discuter. Le problème, c'est quand c'est pas le cas. Quand on fait pas appel à un designer, quand on fait pas appel à un maquettiste, quand on n'a pas le niveau, quand on fait des contenus mais qui sont mal pensés ou qui sont mal mis en scène, tout simplement. Ils pourraient être très bien mis en scène, ils sont mal mis en scène. Et c'est pour ça d'ailleurs que les agences fonctionnent très très bien. Le directeur artistique a sous sa direction le designer et le rédacteur. Il fait une réunion avec les trois. Enfin, ils font une réunion tous les trois. Il a aussi parfois le SEO, il arrive souvent après lui, etc. Donc, le fait d'avoir tout le monde en même temps permet d'avoir une ligne directrice. Si c'est bon pour les agences, c'est bon pour nous aussi, non ? Donc c'est ça ce que j'ai répondu à ce monsieur. Et depuis, plus de nouvelles, il s'est passé deux choses. La première, il s'est dit, oh là là, compliqué, ils doivent coûter cher, parce que lui est un référenceur SEO, probablement, enfin je le pense. Et en fait, il souhaite que le rédacteur reste à sa place de rédacteur, c'est-à-dire, fais pas chier, je t'envoie les sujets, t'écris, et c'est tout. Et tu viens pas regarder dans mon assiette de qu'est-ce qu'on doit décider, ceci, cela. Si, si, je viens regarder. Parce que moi, je veux faire un bon travail. Bien sûr que je viens regarder. T'arrêtes de me prendre pour un con. Je suis pas là juste pour écrire des contenus au pif sans même savoir où les sites arrivent. Où les textes arrivent, sur quel site, sur quoi, quelle est sa fonction. Je veux dire, on peut faire appel aussi à mon expertise, elle est grande. Et d'ailleurs, moi, je veux vivre dans un monde où on fait appel à mon expertise. Maintenant, je ne doute pas qu'il trouvera lui-même des rédacteurs qui fermeront les yeux sur toutes les questions qu'il ne veut pas qu'on lui pose et qui feront des textes déconnectés de la marque, mais suffisants pour le SEO. Encore une fois, on renvoie à ce qui a été dit auparavant. La deuxième chose qu'il a dû se dire, c'est que ça doit coûter cher d'avoir quelqu'un qui se mêle autant de la marque et du contrat. À partir du moment où je lui ai demandé le nom du site sur lequel on est censé poster des trucs, pourquoi est-ce que c'est un problème de le dire ? Il peut me dire, c'est juste un site satellite de merde qui sert juste à envoyer du backlink, c'est pas important, je te mets l'adresse, mais sache que c'est, voilà, on s'en fout. Ou alors, ouais, c'est un site que je vais créer qui va parler de telle activité, je te donne un lien vers un site équivalent. Là, on serait dans une discussion intéressante. Mais non, je suis sur quelqu'un qui ne répond même pas au message, qui s'arrête net, qui a vécu une mauvaise émotion quand il a vu que le rédacteur web était en train de dire qu'il n'était pas n'importe qui et que ça allait devenir un peu compliqué par rapport à avant où il passait des commandes. Mais je le rappelle encore une fois, c'est quand même vachement important de le dire autant de fois qu'il le faudra. Entre lui et moi, le meilleur des deux rédacteurs web, c'est moi. C'est pas lui. Vos clients sont pas des rédacteurs web. Arrêtez de les laisser décider. S'il y a bien une réalité à amener, c'est celle-là. Votre client est un expert SEO, ça n'est pas un rédacteur web. Non, 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 non. Votre client est un expert marketing, ça n'est toujours pas un rédacteur web. Mais lui, il pourra vous donner un avis sur l'efficacité, parce qu'il sait ce qu'il veut à l'intérieur du texte, mais il ne sait pas l'écrire. Lui, il fait d'autres trucs. Il ne sait pas. Donnez-lui un ordi, demandez-lui d'écrire, vous allez tomber sur des textes incohérents. Bricolés avec des machins de « oui, vous pensez ceci, vous vivez cela ». Calme-toi, c'est juste un article de blog. On est là pour donner quelque chose. On donne sincèrement quelque chose dans un article de blog. On n'essaie pas de prendre. On ne fait que donner. Donc voilà. Il y a plein de choses comme ça qu'il faut noter. Vos clients, la plupart du temps, à l'exception, j'ai envie de dire, des agences, et encore, des agences qui ont la bonne structure, c'est-à-dire qui laissent une place importante à la notion de communication, ce qui n'est pas le cas de toutes les agences du tout, ben vous n'avez pas de place de rédacteur web, et surtout, vous n'avez pas de gens qui comprennent l'importance de ce qu'on fait. C'est compliqué, ça. Et c'est ça le monde dans lequel on veut évoluer. On a ce plafond de verre. Hier, j'ai entendu un truc. Alors, c'était sur Instagram, sur les Reels. Désolé. je crois que je suis drogué. Donc, sur les petites vidéos d'Instagram, j'ai vu une conférence, enfin, une espèce de petite séquence, dans laquelle il y avait un homme qui disait, voilà, vous avez une puce qui saute jusqu'à 3,60 m. Quand elle saute, pow, elle monte jusqu'à 3,60 m. Vous la mettez dans un bocal qui fait 50 cm de haut. Vous fermez le bocal avec le couvercle, vous faites quelques petits trous, vous lui donnez un peu à bouffer et de l'eau. La puce, elle va sauter au début de toutes ses forces. Elle va se fracasser la tronche contre le couvercle. Elle va faire ça 4-5 fois. Et puis après, elle va sauter, mais uniquement jusqu'au couvercle, légèrement en dessous. Elle saute, mais elle fait tout pour ne pas se manger le couvercle. Donc elle saute maintenant plus qu'à la hauteur du couvercle. Cependant, elle sait toujours sauter jusqu'à 3,60 m, aucun doute là-dessus. Vous introduisez une deuxième puce femelle qui vit la même chose. Alors je ne sais pas si les puces, il y a des mâles et des femelles, je pense, oui. Bref, les deux vivent la même chose. Et puis d'un coup, ils font des bébés. Les bébés, vous ne les verrez jamais se fracasser contre le couvercle. Ils sauteront toujours juste en dessous. Parce qu'ils ont vu papa et maman faire tout pour ne pas se manger le couvercle. Pourtant, les bébés peuvent aussi sauter jusqu'à 3,60 m. Mais jamais ils ne le tenteront, jamais ils ne le sauront. Parce que tout ce qu'ils voient, c'est le fait qu'ils ne peuvent pas sauter à plus de 49,5 cm par rapport à 3,60 m. Et je trouve ça très intéressant de pointer ce mécanisme d'apprentissage basé sur l'observation, l'imitation. Parce que oui, c'est comme ça qu'on apprend. On apprend en imitant, en réfléchissant, en nous opposant, en nous positionnant par rapport aux uns et aux autres. Donc, dans le discours de tous ces gens qui ne sont pas rédacteurs web, mais qui sont clients, il y a une définition de la rédaction web. C'est pour ça que, d'ailleurs, dans la formation narrative, une des étapes est d'essayer de faire un bilan de la réputation et de la définition du métier de rédacteur web dans le regard des autres. La définition, c'est si tu n'as pas le temps d'écrire pour ton site internet, le mieux, c'est que tu payes quelqu'un pour le faire à ta place. On dépasse rarement ce niveau-là. Merci encore une fois à Lucie Rondelet qui a amené le concept de rédacteur web SEO, c'est-à-dire qui a trouvé un moyen de valoriser le métier en emmenant le rédacteur web sur un terrain que, ben pour le coup, une partie des clients ne maîtrise pas et donc valorise. Le SEO, ça, le client, il ne sait pas faire. Rédacteur web, ça, il sait faire. Enfin, il croit. Le problème, c'est que comme il n'y connaît rien, il écrit un truc qui lui semble bon, mais il n'a pas d'indicateur qui lui montre qu'il a tort. Et donc, il se dit que c'est facile. Voilà. Le rédacteur web SEO, c'est encore un autre objectif. Où là, on dit, ben voilà, les textes que je fais sont spécialement conçus pour Google. C'est comme si vous n'aviez pas le temps de cuisiner et que vous vous disiez, ben, je vais prendre quelqu'un pour cuisiner à ma place. On va dire les plats de base, avec des recettes qu'il a juste à suivre, hein. Pas des trucs qui nécessitent de la compétence. Et là, d'un coup, vous en avez un qui dit, oui, mais moi, je suis diététicien aussi. Donc, je te fais à manger, tes plats de base, ce que tu veux. Mais en plus, je fais que tu restes mince, sportif, plein d'énergie, que tu dormes bien, etc., etc. Donc, bien sûr, ça marche. Rédacteur web SEO, ça marche. Ça repose sur un mensonge, mais ça marche. Le mensonge, c'est que le contenu n'est pas aussi important que ça dans la performance d'un site. Il est très important dans le classement, mais il n'est pas important dans la performance. Enfin, il y a des études qui disent oui, des études qui disent non. C'est très compliqué. On travaille avec un algorithme qui a 200 critères, dont seulement 30 ou 40 concernent spécifiquement le contenu. Qu'est-ce qui fait que ça marche plus ou moins fort ? Ça devient un peu compliqué, mais bon, il y a de la science qui essaye de se développer à partir de là. Donc, n'hésitez pas à écouter les SEO autour de ça, parce que c'est un sujet qui les passionne. Mais globalement, à l'heure actuelle, ce qu'on peut dire, c'est que le contenu sert à Google à savoir où ranger le texte, éventuellement à savoir sa qualité, mais ça ne définit pas sa force. Les courbes que vous voyez, par exemple, sur 1.fr ou YourTextGuru, quand ils vous montrent l'évolution maximale des contenus, eh ben, il faut demander à lire le premier texte. Le premier texte est un texte vide, c'est-à-dire avec trois mots différents quasiment, avec des contenus sans le moindre intérêt et sans le moindre vocabulaire, et sans la moindre balise ni rien. Et après, on remplace sur le site des textes qui sont faits par YouTextGuru, mais qui sont aussi configurés, balises, etc. Et là, oh, ou 1.fr, et waouh, incroyable, x300%. Ouais, mais là, tu demandes juste à un rédacteur web de te remettre le truc en place, et t'as x300% aussi. Ça veut pas dire que ces outils sont inutiles, ils sont très utiles. Mais comme disait Thomas Kubel, il le dit sans doute encore si on lui demande, ça permet de passer de voiture de route rapide à Formule 1. La performance, elle se trouve entre les deux. Voiture de route type course, hein, type Tesla ou je sais pas. Voilà, des voitures qui tapent à 300 sans problème. Et puis Formule 1, 350, 400, meilleure maîtrise, plus de puissance. Voilà, c'est là où ça joue le plus. Mais nous, simplement en tant que rédacteur web compétent et connaissant notre métier, on peut amener les textes à voiture de course rapide en termes de performance. Mais ça amène pas à un classement. Enfin, ça amène pas à une position. On n'est pas numéro 1 sur Google une fois qu'on a fait ça. Donc, rédacteur web SEO, ça se nuance beaucoup. Et puis surtout, on touche à un imaginaire des clients qui est « Ah, il faut que je donne de l'argent pour le SEO, comme ça il y aura plus de visites sur mon site. » C'est pas très honnête, mais c'est pas grave. Donc, moi j'amène une autre notion, communicante. Et là c'est pareil, bien sûr que tout le monde communique, je sais communiquer. Alors on pourrait peut-être tenter un truc plus violent. SEO marketing, ça peut peut-être marcher. Ah ouais, d'accord, donc tu fais du marketing en plus. Oui, dans les contenus, du SEO et du marketing, les deux ensemble. Ouhouhou. Sauf que SEO plus marketing, moi j'appelle ça communicant. Et c'est d'ailleurs un problème que j'ai rencontré sur LinkedIn, où il y a eu un débat, et j'ai mes élèves qui m'ont invité à venir participer au débat. C'était une boîte de com spécialisée marketing qui dit « Ouais, est-ce que le marketing fait partie de la communication ou est-ce que la communication fait partie du marketing ?» Eh ben moi, mon discours depuis toujours, c'est la communication, c'est un ensemble philosophique, un principe d'échange qui comprend toutes les stratégies d'échange. De la petite fille qui fait sa crise pour avoir une sucette, à la grande marque qui te dit qu'elle va changer le monde. Donc le marketing est une sous-branche de la communication. Et le SEO est une sous-branche du marketing. Etc, etc. Donc on peut décomposer comme ça. Eh ben non, eux c'est l'inverse. Ils disent non, le marketing c'est ça, c'est la base, comme s'il n'y avait rien au-dessus. Mais genre, le monde est marketing. Je suis pas contre l'idée. Mais je dirais qu'il y a des messages qui ne sont pas forcément faits pour vendre. Pas exactement. Ou qui ont d'autres objectifs. Auquel cas, peut-être que ça serait bien de dire que là, c'est de la communication, juste de l'échange. Mais bon, voilà. Le monde est marketing pour eux, ou en tout cas dans leur branche. Il n'y a rien au-dessus. Donc, la communication correspond en fait à ce que nous on fait. C'est-à-dire écrire tous les textes qui ne sont pas là pour vendre, mais qui relèvent d'une stratégie marketing. Donc la communication et les promos du moment, les petites nouvelles de l'entreprise, les posts sur LinkedIn, les posts sur Facebook, c'est de la communication, ça, c'est pas du marketing. Et vous vous rendez compte à quel point le vocabulaire change ? À quel point je comprends ce qu'ils veulent dire quand ils disent communication ? L'entreprise communique. Soit l'entreprise vend, soit l'entreprise communique. D'accord. Donc la communication, c'est un truc un peu bas de gamme, un peu pas intéressant, pas rentable. C'est un peu de l'argent perdu. Mais c'est bon pour le branding, alors ça va. Alors que moi, je suis dans la philosophie de la question. C'est-à-dire, la communication, c'est une page sur un serveur, quelque part sur un réseau électrique, avec des câbles qui sont tirés les uns aux autres, envoie des données sur un écran, et là, ça parle. Ça parle. Ça communique. Il y a une communication asynchrone, voire parasynchrone, entre une marque qui n'existe pas, ou une personne qui a écrit ça avant, ou qui a publié une vidéo avant, et les gens qui la reçoivent. Mais c'est bien de la communication. Il se passe des choses. Ça modifie la chimie chez l'un et chez l'autre dans le cerveau. Ça communique. C'est un peu la définition de la communication, hein. Vous prenez deux plantes, et c'est des expériences qui se font, hein. Vous prenez deux carottes, vous tapez sur une des carottes, vous les séparez, hein, dans des pots différents, vous tapez sur une des carottes et vous observez l'autre. Et ça arrive, alors c'est peut-être pas les carottes, mais il y a certaines plantes qui changent leur chimie pour devenir plus amères, plus toxiques, etc. Quand elles repèrent qu'un de leurs congénères, qui n'est relié en aucun cas en deux, avec eux, est en train de se faire péter la tronche, ou bouffer, ou taper en deux, ou bref, que la carotte est en souffrance. Donc là, on parle de communication entre les plantes. La communication, c'est quand une personne change sa chimie et que un être change sa chimie de l'autre côté en réponse. C'est de la communication. Donc moi, dans ce domaine-là, bien sûr que le marketing est une sous-branche. C'est normal. Mais voyez, pour comprendre le métier de rédacteur web, avec tout ce que je viens de vous expliquer là, il faut revenir un petit peu à la question essentielle. À quoi on sert dans ce vaste monde? À quoi on sert? Et si je vous pose la question, vous, rédacteur web du monde entier, vous devriez me répondre légitimement à faire communiquer quelqu'un ou quelque chose. On écrit pour être lu. Donc on est écouté. Donc on a l'option de changer la chimie de l'autre. Vous voyez, même de manière imperceptible, la chimie change parce qu'on communique. Pendant que je suis en train de vous parler, votre chimie change. Vous comprenez des choses, vous faites des connexions, etc. Vous évoluez, peut-être un petit pas, peut-être un grand pas, mais jamais aucun pas. Tous les jours, on évolue en interaction avec les autres qui communiquent vers nous. Ils peuvent communiquer par leurs vêtements, ils peuvent communiquer par leur voix, par leur agressivité, ils peuvent communiquer par leur bien-être, mais ça change notre chimie. C'est l'expérience qui a eu lieu dans un métro où une personne s'est mise, c'est disponible sur YouTube depuis 15 ans, je crois, un mec qui se met à rire dans une rame du métro et qui engendre un fou rire. C'est une expérience, c'est un acteur qui fait ça, et il rit, et son rire est tellement communicatif que tout le monde commence à avoir un fou rire. Voilà. Et ça, c'est de la communication. Donc là-dedans, bien sûr qu'on a ce rôle-là. Mais maintenant, soit on le nie, et on laisse des SEO ou je sais pas qui nous passer des commandes d'amateurs. Vraiment d'amateurs, hein. Ouais, mais ce que tu veux, je veux dire, il y a un client dernièrement, il nous a dit ce que je veux, c'est des textes lisibles et pas trop crades. Ça va, on peut faire un truc bien, ça te dérange pas, t'es sûr? Il n'y a pas de souci. Donc voilà, C'est une vraie question qu'on pose. Si nos clients ne savent pas faire ça, ne les laissons pas décider pour nous. Soit on les écoute et on fait ce qu'ils veulent, on prend le fric et on se casse, et on sera responsable de la pollution du web, ouais madame, ouais monsieur, la pollution, comme je te le dis, ou alors on va faire de la vraie communication intelligente, bien pensée, qui identifie parfaitement sa cible. Je rappelle quand même que le marketing n'est pas une mauvaise chose quand il est fait dans les règles de l'art. C'est-à-dire que je pense à qui est destiné mon produit, où se trouve le marché, le segment. Je communique intelligemment vers ces gens, ce qui fait que seuls ces gens viennent, pas les autres. Il y a des produits mainstream, genre l'iPhone, qui est fait pour tout le monde. Et que la seule chose qui est limitante là-dedans, ça va être l'argent ou ça va être les quelques arguments qu'il y a autour d'Apple. Mais globalement, ça concerne 100% des gens, potentiellement. Maintenant, ma formation de rédacteur web ne concerne que des rédacteurs ou des gens en reconversion vers la rédaction qui n'ont pas encore fait de formation ou dont la formation n'a pas été satisfaisantes, qui veulent s'améliorer ou apprendre, découvrir, et qui ont l'argent disponible pour le faire et le temps disponible pour le faire. Vous voyez, faites à quel point à chaque fois j'enlève une partie des gens pour finalement n'en avoir qu'une poignée qui sont là disponibles. Et là, je rajoute en plus une couche en disant et qui veulent faire une formation narrative. Ce qui ne va pas forcément augmenter le chiffre. Parce qu'il y a plein de gens qui n'ont pas pris ma formation et m'ont dit pourquoi, voire ont demandé son remboursement à l'époque, en disant « c'est pas assez cadré, c'est pas assez scolaire ». Oui, oui, des gens de 40 ans, c'est pas assez scolaire. Je comprends, il y a d'autres formations très scolaires, n'hésite pas. Moi, c'est vrai que ça va être une formation basée sur ce que tu vois, ce que tu comprends, ce que tu as en toi. C'est ça ce qui va m'intéresser, parce que quand je ne serai plus là, quand le cercle ne sera plus là, quand tu vas être seul aux commandes, je veux pas que tu te dises « Ok, qu'est-ce que j'ai appris ?» Je veux que tu saches quoi faire. C'est à ça que je te prépare. C'est que tu puisses compter sur toi, vraiment, pour développer ton entreprise. Et ça, c'est tout l'exercice et c'est tout l'enjeu de la formation. C'est, si vous connaissez les niveaux d'apprentissage, on est au niveau 6. Niveau 1, c'est apprendre par cœur, recracher sans comprendre. Voilà, nous on est au niveau 6 en termes d'intégration. C'est ce que je veux. C'est pas envie de me battre pour autre chose. Donc voilà. Bref, c'est un peu le sujet du moment. Alors j'espère que la balade vous aura intéressé, que vous y avez trouvé quelques comptes et quelques petites choses intéressantes. Moi, je vais encore passer quelques jours à écrire et à compléter mes parcours. Là, je suis sur MindMeister maintenant. Je ne me retrouve pas dans mes cartes. Mais c'est pas grave, c'est envahi de toutes parts. Et voilà. Vous entendrez peut-être parler de ces choses-là dans les prochains temps. Moi, là, je reviens de vacances et j'ai toute une semaine à rattraper. Il y a les nouveaux articles de blog qui vont sortir, j'espère, d'ici la fin du mois sur notre site, le Cercle des Rédacteurs, qui est devenu un média, qui vous invite d'ailleurs à en voir beaucoup plus. On poste d'ailleurs toutes les nouveautés du Cercle aussi en termes d'expérience. Le réseau social est vraiment ouvert à tout le monde. Et aujourd'hui, on en est à 8 rendez-vous sur des thématiques particulières en un mois, plus 4 rendez-vous clubs que j'organise moi, plus certains événements encore ponctuels qui se rajoutent, sans parler de toutes les interactions qu'on peut avoir, on commence à vraiment être pas mal. Mais on va se prendre encore un peu de temps pour consolider tout ça tout bien. En tout cas, il se passe de plus en plus de choses sur le cercle, et ça c'est un truc chouette. J'ai très hâte de voir ce que ça va donner avec le temps et au fur et à mesure de l'expérience. Voilà, je vous dis à bientôt. Rendez-vous dans le cercle de rédacteurs si vous voulez être membre. C'est pas très cher en plus à l'année. Rendez-vous dans nos formations. La 3e formation narrative est fermée. Je suis désolé. Elle sera rouverte au mois de septembre, je crois, septembre-octobre. On va voir quand est-ce qu'on peut se caler là-dessus. On est en train de d'organiser la formation pour permettre d'accueillir une deuxième classe en parallèle de la première, à peu près à mi-parcours de la première. C'est ça l'enjeu, c'est d'avoir toujours deux classes qui tournent, donc six groupes, mais qu'on puisse gérer ça en termes d'emploi du temps, d'écoute, d'attention, etc., etc. Donc tout un travail là-dessus. Bref, je vous dis à très bientôt. Moi, j'ai vraiment masse de travail là-dessus. Et j'espère que voilà, ça vous aura fait plaisir de me réentendre un peu. Moi, j'étais en tout cas ravi de réenregistrer ce podcast. Je me suis rendu compte que j'avais envie de vous parler de plein de choses. Allez, je vous dis à bientôt. Bye bye.